Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Grand Ciel dans notre émission Caméléon avec un K. Aujourd'hui je suis avec Mira.
Bonjour Marie.
Bonjour Mira. Mira, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Alors Marie, tu vas nous parler des citrouilles d'Halloween. Et moi, je vais vous parler d'abord de Wangarimutha Maathai, qui était une femme politique, militante écologiste kényane, et aussi d'une chanson basque, Churia Churi, plus connue sous le nom d'Egoak. Commencer par vous parler de cette femme, Wangarimutha Maathai, qui était donc, comme je disais, une femme politique, mais aussi une militante écologiste. Elle se battait pour les droits de l'homme et le développement durable dans son pays, le Kenya. Elle y est née le 1er avril 1940 dans une famille d'agriculteurs de l'ethnie Kikuyu, l'ethnie majoritaire du pays, donc le Kenya, qui est toujours, à l'époque, une colonie britannique. Elle peut aller à l'école, c'est pas le cas de tous les enfants est-africains dans les années 60, et surtout les filles. Et en fait, c'est une très bonne élève. Ses professeurs vont ensuite l'aider à obtenir une bourse des États-Unis. Elle va continuer ses études au Kansas, dans le lycée du Mont Saint-Scholastique, puis en Pennsylvanie. Elle va étudier la biologie principalement, avant de rentrer au Kenya, où elle devient quelque temps assistante de laboratoire pour le département d'anatomie vétérinaire. Elle repart rapidement pour Munich, en Allemagne, où elle a obtenu un poste à l'université. Enfin, je précise qu'elle avait aussi étudié l'allemand aux États-Unis. Et finalement, en 1971, à l'âge de 31 ans, elle devient la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à obtenir le titre de docteur S. Sciences. Elle est également la première femme à accéder à la direction du département d'anatomie vétérinaire de l'université de Nairobi en 1976. Wangari Maathai, c'est donc quelqu'un qui, même si sa situation ne l'y prédisposait pas, a beaucoup étudié et s'est servi de ce savoir pour tenter d'améliorer la situation dans son pays. Elle s'engage d'abord dans plusieurs associations, comme la Croix-Rouge du Kenya, l'Association kényane des femmes universitaires ou le Centre de liaison pour l'environnement, où elle comprend que pour proposer des solutions durables aux problèmes d'eau et d'énergie, il faut s'attaquer aux causes premières de ces problèmes, à savoir la déforestation à outrance, le défrichage et les pratiques agricoles non durables. La solution qui s'impose pour elle, c'est de planter des arbres, mais à grande échelle, et aussi d'y faire participer les femmes. Elle crée donc, en 1977, le Green Belt Movement. Ses objectifs sont de lutter contre la dégradation de l'environnement, la pauvreté et les conflits qui minent le pays, des problèmes qui sont pour elle liés. Elle déclare « Une personne pauvre abattra forcément le dernier arbre pour préparer son dernier repas, mais plus vous dégraderez l'environnement, plus vous vous enfoncerez dans la pauvreté. » 30 millions d'arbres au Kenya ont été plantés directement grâce à elle, ce qui a poussé l'ONU à lancer une stratégie similaire, grâce à laquelle 11 milliards d'arbres ont été plantés à travers le monde, et plus de 900 000 Kenyans y ont bénéficié. Plus tard, elle estime que l'arbre est devenu un symbole de la lutte en faveur de la démocratie au Kenya. En effet, elle s'oppose au président Daniel Arap Moi. Elle est même victime de violences de la police en raison de cet engagement, ce qui ne va pas l'arrêter. Elle mène différents combats, comme avec le projet immobilier d'une tour de 60 étages au cœur du parc Uhuru de Nairobi, un projet qui est grâce à elle abandonné, ou encore pour la libération de prisonniers politiques au début des années 90, avec l'association Release Political Prisoners. Et c'est aussi un succès. On ne peut pas dire que ça a été facile. Elle a aussi affaire à des batailles plus personnelles. Son mari la quitte, jugeant qu'elle était une trop forte tête pour une femme. Elle traîne celui-ci en justice, et le juge donnant raison à son mari, elle le traite d'incompétent et corrompu, ce qui lui vaut une peine de prison de 6 mois. Quand le président Daniel Arap Moi quitte enfin le pouvoir, elle se présente aux élections législatives et est élue à 98% des votes, avant d'être nommée en 2003 ministre déléguée à l'environnement et aux ressources naturelles. Un an plus tard, elle devient la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Et c'est loin d'être le seul prix qu'elle reçoit. Il y a aussi la Légion d'honneur de la France en 2006, le Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant japonais et des dizaines d'autres. Elle meurt le 25 septembre 2011 à Nairobi des suites d'un cancer. Et fidèle jusqu'au bout à ses engagements, Elle fait promettre à sa famille de ne pas couper d'arbres pour fabriquer son cercueil, qui sera fabriqué en bambou et en fibre de jacinthe pour respecter sa demande. Nimo Bassey, une activiste nigérienne, déclara « Si personne n'applaudissait cette grande femme d'Afrique, les arbres applaudiraient à leur place. »
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conter l'histoire du fruit jaune-orangé représentant Halloween au mieux, la citrouille. En effet, dans la tradition, la veille de la Toussaint, il convient de sculpter un légume issu de la famille des cucurbitacées. Cela peut être une courge ou un butternut, mais la plupart du temps, c'est une citrouille. Une fois fait, il est de coutume de l'installer dans sa maison ou dans les allées du jardin et sur les rebords de fenêtres, avec, à l'intérieur, une lanterne. L'idée est alors de recréer des monstres dans la nuit afin d'éloigner les mauvais esprits et ainsi attirer les bons. Mais d'où vient cette tradition ? Tout serait parti de la légende de Jack O'Lantern, aussi connu sous le nom de Jack à la lanterne, un conte irlandais. Dans l'histoire, le personnage est un ivrogne et passe son temps dans les tavernes, jusqu'à cette nuit où le diable tente d'acheter son âme. Jack accepte le pacte en échange d'un dernier verre, et le diable se transforme en pièce de monnaie pour payer ce verre. Rapidement, Jack saisit la pièce de monnaie et la place dans sa poche où se cache aussi une croix d'argent. La croix chrétienne paralyse le diable, le piégeant dans la poche. Le diable retourne aux enfers après que Jack lui demande 10 ans de sursis. 10 ans plus tard, Jack est de nouveau surpris par le diable au pied d'un pommier. Cette fois, il demande une pomme, et le diable escalade l'arbre pour lui en attraper une, pendant que Jack grave une croix sur le tronc. Cette fois, Jack ne sera plus embêté par le diable jusqu'à sa mort. Une fois mort, Jack ne peut plus rejoindre le paradis au regard de sa vie de débauche. Rancunier, le diable ne veut pas de lui aux enfers. Condamné à errer dans la nuit jusqu'au jugement dernier, Jack retrouve un morceau de charbon ardent sur son chemin. Il l'insère dans un navet qu'il a sculpté afin de se construire une lueur pour voir dans l'obscurité. Depuis, Jack est nommé Jack à la lanterne. Il reviendrait chaque veille de la Toussaint. Avec cette légende, les Irlandais ont longtemps eu pour coutume de creuser des navets en sculptant des visages. Si l'on croit au départ que la fête d'Halloween est américaine, c'est parce que de nombreux Irlandais ont émigré au 19e siècle. Et une fois aux États-Unis, ils n'ont plus trouvé de navets pour faire perdurer la tradition. Ils se sont ainsi rabattus sur la citrouille, plus répandue à l'époque et également plus facile à sculpter. Ainsi naissait la citrouille d'Halloween et la couleur orange assimilée à cet événement. Halloween est restée irlandaise jusqu'au XXe siècle, avant que les Américains s'en emparent et la transforment en fête commerciale, symbolisée par l'orange.
Churi à Churi, c'est une chanson, comme je vous le disais, qui est aussi plus connue sous le nom d'Egoac. Je m'excuse d'avance auprès de tous les Basques qui m'entendront pour mon piètre accent. Je dis que c'est une chanson, et c'est le cas, et c'est même l'une des chansons basques les plus connues. C'est d'abord un poème écrit par le poète basque espagnol Joaquin Arce à la fin des années 50. Il avait à l'époque 24 ou 25 ans, et sous le régime franquiste, qui démarre en 1939 après la guerre civile espagnole, et qui continuera jusqu'en 1977, la langue basque était proscrite dans l'espace public, les textes officiels, les publications et bien sûr l'enseignement. Pourtant, Joaquin Arce écrira en basque ce poème dont je vous lis la traduction. « Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi, il ne serait pas parti. Oui, mais voilà, il n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais moi, c'était l'oiseau que j'aimais. » C'est le chanteur Mikel Laboa, né à Saint-Sébastien en 1934 et décédé il y a une dizaine d'années dans la même ville, qui en fera une chanson. Mikel Laboa était l'un des chanteurs les plus importants du Pays basque et voulait revitaliser dans différents domaines la culture basque que la dictature de Franco avait cherché à museler. Il découvre cette poésie en 1968. Le poème était imprimé sur les serviettes d'un restaurant de Saint-Sébastien comme un acte de résistance contre l'interdiction d'utiliser la langue basque. Il en a fait immédiatement une chanson qui connaît directement un grand succès. Elle est reprise par plein de chanteurs, il y a même John Baez, une chanteuse américaine, qui va la chanter. C'est une chanson qui est appréciée des gens qui ne parlent pas basque, parce que c'est une jolie mélodie, mais pour ceux qui le parlent, c'est bien sûr une chanson sur la liberté, une chanson d'amour, mais elle a quand même un gros côté politique. Et je vous laisse tout de suite l'écouter, dans la version de Mikel Laboa.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo Baina nonela etzen gehiago txoria izango Baina nonela Etzen gehiago txoria izango Eta nik txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou écouter nos émissions précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur radiograndciel.fr.
Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau caméléon. Au revoir Marie.
Au revoir Mira.